It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Maxime Dupuis et cette semaine je retrouve Martin Mosny. Alors je le retrouve, c'est moi qui n'étais pas là la semaine dernière, occupé de tâches. D'ailleurs j'ai vu que ça a beaucoup...
C'est un peu jasé
j'ai l'impression, ouais. C'était pas ma foi, j'ai entendu beaucoup de choses qui me...
Qui t'ont pas plu ?
Bon non, parce que moi je suis pas... Enfin si, je suis susceptible, mais je sais que ça part d'un... J'allais dire pas d'un bon sentiment, mais... Il y a toujours un petit fond de vérité, donc je vais aussi aujourd'hui m'atteler à remettre l'église au milieu du village.
Vas-y.
Parce que tout est, comme j'ai dit à Arthur qui m'a remplacé la semaine dernière, tout était bien jusqu'à la fin où il a parlé de tapoter sur son cellulaire.
Ouais, c'est vrai.
Et là, on est retombé en 1992.
Ouais, 92.
Alors ça se voulait une émission rajeunie,
moderne.
Ouais. Là, il a parlé de cellulaire. Je sais pas ce qu'il lui a pris.
Bah, la mission a pris quand même un petit coup de polish, comme t'étais pas là, Maxime. Tout de suite, on est retombé dans un truc plus en phase avec son temps.
Ouais.
Tu vois. Beaucoup plus. Enfin, voilà.
J'ai envie de dire, c'est les auditeurs qui décideront de ça.
Ouais, bah, j'ai reçu plein de messages de plein de jeunes.
Ah bon,
l'audience s'est vachement rajeunie la semaine dernière. Et là, bah, déjà, on ne tournait plus dans les EHPAD. Là, bon, là, du coup, on va retourner dans tous les EHPAD de France.
Tu sais que ce n'est pas un bon calcul de dire faut rajeunir. Pourquoi ? C'est comme quand j'entends le tennis, c'est un sport de vieux. Attention, le spectateur moyen, 60 ans. Bah, c'est bien. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de vieux.
Mmh.
La population vieillit. Donc, tu auras beaucoup plus de personnes pour regarder tes programmes ou t'écouter.
Je pense quand même qu'aujourd'hui, tu as moins de personnes qui ont plus de 60 ans que moins de 60 ans, Maxime, aujourd'hui.
Oui, mais c'est en train. Non, mais justement, la
ton
pyramide.
Public, toi, ce que tu vis dans tous les propos, tout ce que tu dis, les
la pyramide des âges évolue.
C'est plutôt.
Tu vois, t'as le plus... Je me souviens, c'était, je sais plus où on en est maintenant, en Algérie, tu avais je sais plus combien de pourcentage de la population qui avait moins de 25 ans.
Mmh.
C'était hyper jeune.
Là, par exemple, ça devient chiant. Mais vas-y, mais continue.
Mais oui, mais justement,
ouais,
je m'adresse.
Ouais.
Voilà. Bon, bref, on va couper.
Ouais. Non, on coupe.
Non, enfin, on coupe pas. Je vais parler d'autre chose.
Vas-y.
Alors.
J'ai vu les trois lettres que tu as mises sur.
Faut que tu m'expliques. Non, faut que tu m'expliques. Alors, je vais pas revenir sur le fait que j'ai brillamment remporté une des deux ligues que je fais avec toi.
Tu reviens quand même dessus.
Avec deux dernières journées contre le deuxième que je bats.
Tu parles de MPG là.
MPG, pardon. Et je bats le premier lors de la dernière journée. Donc, un final. On aurait ça en Ligue 1. On dirait c'est génial, c'est le final du siècle.
Ouais.
Et là, il se trouve que dans l'autre ligue qu'on fait, dernière journée, une Ligue à 10, eh ben, il se trouve que je suis de nouveau dans la position de gagner le titre.
On est 6 dans la position.
Alors, non. Alors, c'est là où tu fais une erreur. Alors, Martin, à la dernière journée, j'ai vu qu'il s'est excité. Je reçois les petites notifications sur mon téléphone. Il a fait, je crois, 8 ou 9 moves. Il a acheté la terre entière.
Oui.
C'est l'Olympique lyonnais du mercato de la dernière journée. Mais Martin, tu es à 3 points de la première place. En gros, tu n'as aucune chance de gagner puisqu'il y a 5 ou 6 équipes.
Non, mais je vais te raconter pourquoi. Parce que j'ai beaucoup de joueurs qui sont à la canne. C'est la dernière journée, donc j'ai viré tout mon effectif, tous ceux qui ne jouaient pas. Voilà.
Mais pourquoi ne l'as-tu pas fait avant ?
Parce que je m'étais pas rendu compte que je pouvais terminer premier.
Mais là,
Non, mais là, j'ai acheté n'importe qui, n'importe quoi, oui. J'ai acheté Bonalons, j'ai acheté Kevin Gamero à 50 millions d'euros. Mais c'est pas grave, on s'en fiche.
Non, mais.
De toute façon, le fric, autant l'investir parce que, tu vois, la ligue se termine.
Cette excitation de dernière journée, j'avoue que. Surtout que tu as. Globalement, là, si tu gagnes, c'est le hold-up du siècle.
Ouais, c'est le hold-up du siècle.
Peut-être que mathématiquement, c'est pas possible. C'est peut-être dans les premiers. T'es 5e, 24 points, le premier à 27 points. Moi, j'en ai 26, je suis 2e.
Voilà.
Donc j'ai quand même 90% de plus de chances de toi.
T'as un peu plus de chances de moi que gagner. Mais tu gagneras pas.
Pourquoi ?
Et moi non plus. Parce que c'est comme ça. Je te le dis.
Bah, on peut pas gagner à toutes les ligues. J'ai déjà gagné une. C'est déjà.
Donc il faut juste savoir que Maxime, ça fait 10 ans qu'il joue à MPG, il vient de gagner une ligue.
Non, j'en ai gagné autant que lui. Et je suis toujours sur le podium.
Et tu vois, c'est quand même une fierté de gagner autant de ligues que moi. C'est un petit graal. Ça dit quelque chose quand même de ma réputation sur ce jeu.
Non, mais moi le problème, je suis plus NBA Fantasy.
Ouais.
Où je brille.
Ouais.
Ah oui, il faut le dire.
Ouais.
Donc voilà, je joue avec toi, ça te fait plaisir. Bon, comme ça, quand tu me bats, bah, ça te fait plaisir. Je te donne un peu à manger, tu vois.
Pff, ouais, bref.
Le mercato s'est terminé hier soir. J'ai un dernier truc à dire. Ah là, c'est mon coup de gueule.
Ah vas-y.
Je suis très content que ce soit terminé. J'en peux plus des journalistes qui disent tel club va faire machin et ils vont sortir machin. À quel moment les journalistes sont obligés de parler comme des agents ?
C'est comme Antonetti qui a poussé son coup de gueule contre le trading. T'as entendu
ça ? Ah non, j'ai pas entendu ça.
Ah, il a dit le trading, tout le monde a ce mot à la bouche, les Portugais, les Anglais, tout ça. Mais en fait, c'est ce qu'on faisait à Bastia, ça s'appelle des transferts. Voilà. On appelle ça du trading.
Trading. On va sortir. On va sortir, les mecs, c'est du bétail, tu vois. Bah, on va faire machin. Alors, j'ai aussi entendu, que j'aime pas, ma bouche d'un journaliste, il s'est fait les croisés. T'as le mec qui est victime d'une rupture des ligaments croisés. Il s'est fait les croisés.
Là, était sur Arthur. Tu vois, là, il incarnait quelque chose de nouveau, un souffle, tu vois, des jolis contours, machin. Enfin, tu vois, un truc.
Voilà. J'ai pas vu les contours.
Ah ouais, les contours d'Arthur. Bah là, hier, il a fait une vidéo, on aurait dit jacouille, par contre. Mais sinon, ouais, il fait quand même jolis contours.
Alors, oui.
Et là, Maxime, il revient. Bah, il y en a marre de ces journalistes qui disent sortir, le trading. Attends, c'est les transferts, merde.
Il y a un truc qu'il faut que je comprenne avec Arthur, c'est qu'en gros, il se fait ses contours, son coiffeur, ça va pas du tout, mais il continue à y aller.
Il continue, puis j'ai l'impression qu'il va tous les deux jours faire ses contours. Mais là, il a pris le repère de Christian Clavier dans les visiteurs, par contre. Il y a un vrai souci là. Ah putain, ouais, c'était
chiant. Alors, si vous voulez voir Arthur, vous allez cliquer sur un des papiers Mercato et vous l'aurez forcément.
Et vous verrez à côté de lui Paul Citron qui, lui, par contre, n'est plus allé chez le coiffeur depuis que les visiteurs sont sortis au cinéma.
Paul Citron ne va plus chez le coiffeur. Ah ouais, lui, c'est. C'est comment il s'appelle dans. Comment elle s'appelle pas avec votre poncho. Il veut la même coupe.
Valérie Lemercier.
Oui, mais c'est quoi son nom? Je me souviens plus. Montmirail.
Ah, Godefroy de Montmirail.
Oui, mais elle. Non, mais c'est Montmirail. C'est plus son.
Non, mais elle. On parle de Valérie Lemercier.
Ah, je me souviens plus de son nom dans le film. Bon, bref, allez, on va
trouver le nom de Valérie Lemercier dans les visiteurs. Venez nous le dire sur la plateforme.
Alors, pour terminer, c'est
sur Twitter.
Béa. Terminer cette intro très 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 longue, on va dire qu'on a un invité.
Tout à fait.
C'est en public, c'est encore un stagiaire troisième, Maxence, qui viendra donner son avis sur les choses du football quand bon lui semblera. Enfin, ouais. Non, quand on lui donnera la permission.
C'est pas la foire.
On va parler mercato, donc on va revenir sur la fin du mercato qui s'est terminé hier soir à minuit. Et on va parler, évidemment, tout d'abord, enfin, évidemment, non, mais enfin, si, parce que je voulais en parler toute la semaine, de l'Olympique de Marseille, de Longoria et de ce mercato qui ressemble quand même un peu je sais pas, c'est pas le mercato de trop pour Longoria.
Ensuite, on parle de l'Olympique Lyonnais qui a recruté 5 joueurs, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. 6 joueurs. Et on se demandera si ce n'est pas une poudrière sur laquelle est assis Lyon. Parce qu'on sait que Lyon a du mal toujours à intégrer les recrues. Et là, il y en a beaucoup qui arrivent au milieu d'une saison qui est déjà pourrie. Est-ce que c'était une bonne idée? On en débattra avec Maxime dans le deuxième sujet de cette émission.
Et on fera un bond en avant. Alors, peut-être pas si lointain, mais j'imagine que si, puisqu'on parlera de Kylian Mbappé. Le feuilleton s'est un peu réfréné au mois de janvier. On n'a pas entendu parler autant que je l'imaginais, autant que je le craignais. Il y a des rumeurs néanmoins de la presse espagnole qui dit qu'il pourrait donner sa décision au mois de février. On va vous dire pourquoi ça nous paraît quand même peu crédible ou au moins très périlleux.
Ça n'engage que toi.
Ah bah, je dirais pourquoi ça me paraît peu crédible ou très périlleux. Et Martin vous donnera évidemment le fait qu'il va le dire, etc.
Non, pas
et
du
on
tout.
On finira sur la canne et les favoris de la canne.
Ah oui, parce que... On va revenir sur les favoris de la CAN. Mais en même temps, tout le monde s'est planté, Maxime.
Non, pas moi.
Si on est... Il reste la Côte d'Ivoire. Hein. On avait mis dans les favoris.
Il faut bien
qu'il en reste. Si il la gagne, j'aimerais que tu fasses tes excuses.
T'avais vu la tronche de la.
Mais ça t'engageait autant de toi que moi, ces favoris de la CAN.
Non, justement.
Ah non, mais si. Si, les favoris de la CAN, c'était toi, Maxime.
Réécoutez le sujet, vous verrez.
Oui, parce que Maxime n'avait pas bossé. Non, mais parce que je vais vous raconter comment ça s'est passé cette émission. Maxime, il n'avait pas bossé. Il m'a dit putain, on va parler de quoi? Je lui ai dit, on peut parler de la CAN. Ok, mais tu me fais tes favoris. Et puis c'est toi qui parles. Donc là, effectivement, j'ai fait des favoris vite fait. Maroc, Sénégal, ça me semblait logique. Et j'étais pas les seuls à le dire. L'Égypte aussi, ça me paraissait logique. Et puis j'avais
Ce que j'ai juste dit, c'est que c'est une compétition toujours imprévisible et que l'équipe qui brille en Coupe du Monde est rarement rendez-vous 2 ans après. Mais vous regarderez, vous écouterez. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai le droit dans mes bottes.
On a le droit de se tromper. On est des gens faillibles.
Voilà. Heureusement qu'on a le droit de se tromper. Sinon, l'émission n'aurait pas fait deux épisodes.
Bon, on va démarrer cette émission justement en parlant de l'OM, de Pablo Longoria, d'un Marseille toujours aussi frénétique sur le marché des transferts. Hein. Merlin, Faris Moubagna, Garcia et Jean Onana sont arrivés. Lodi Vitinha et François-Régis Mouguet sont partis. Il y a aussi Malinowski.
Ouais.
Ça compte dans le prêt de Vitinha qui sont partis.
Dans les montages.
Après, c'est placé plein de choses cette semaine. L'équipe nous a appris qu'il voulait dégager à coup de pied aux fesses Jonathan Clauss. Maxime, ce mercato de l'OM, déjà, tu étais énervé contre Pablo Longoria, ça fait environ 2 ans. Mais là, j'ai l'impression que ce mercato, pour toi, c'était celui de trop pour Pablito.
Non, mais on est sur un mercato de déclassement encore. Et j'ai eu un peu peur parce que c'est parti vraiment très fort. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements en début. Et je me suis dit, il va finir le mercato à 7 ou 8 mouvements. pour un peu rattraper l'été ou rattraper notamment Vitinha qui a fini par partir cette semaine. Quand on fera le bilan des mercatos de Longoria, on verra que nos confrères d'RMC ont calculé qu'il y aurait eu à peu près 170 mouvements depuis qu'il est à la tête du club. 170 mouvements, imaginez. Alors évidemment, ça compte les retours de prêt, etc. Mais il n'empêche que ce sont des mouvements. C'est une frénésie absolue qui était justifiée tant que ça marchait, c'est-à-dire jusqu'à l'été précédent, en disant « Mais oui, mais de toute façon, il y a besoin, un club, il y a besoin de renouveler 50% de l'effectif », ce qui est une connerie, parce que les équipes qui gagnent, en général, il y a de la continuité. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. On peut essayer de réinventer le football comme on veut. Ça ne change pas. Je suis embêté parce que c'est un mercato, encore une fois, de rattrapage en vrai. C'est-à-dire que Lodi, c'est le bon exemple. Il arrive cet été pour 13 millions, je crois.
Ouais.
En gros, il a fait 4 mois. Il est reparti en Arabie Saoudite. Enfin, il est parti en Arabie Saoudite. On avait eu un peu pareil avec Luis Suarez l'année dernière.
Là, c'est une caricature.
Il a fait 2 mois.
Oui, c'est une caricature.
Oui, mais on a eu la même avec Luis Suarez. C'est-à-dire que le type arrive. Au bout de 2 mois, on se rend compte qu'il ne fait pas l'affaire. Alors, à un moment, cette frénésie. Oui, ok. Et Lodi, là où il est un contre-exemple, c'est que l'OM se sera fait un peu d'argent, n'en aura pas perdu sur lui. Sauf que si vous regardez la balance du mercato depuis l'arrivée de Longoria, elle est évidemment déficitaire parce que, en fait, c'est un mercato normalement qui est censé avoir, qui a deux raisons d'être. Un, faire progresser l'OM, le faire aller sur le podium régulièrement et espérer jouer avec des champions, et au moins faire de la revente et de la valorisation de joueurs. Mais ce qu'on voit, c'est que ça ne valorise rien du tout. Et on a toujours l'impression que les joueurs qui partent, ce sont ceux qui devraient rester. Je pense notamment, pour ne pas citer, à un Matteo Guendouzi, qui est parti à la Lazio. Moi, je me demande encore pourquoi ce type-là a été mis dehors, coup de pied aux fesses. Le cas Klos, c'est un cas fantastique. C'est-à-dire qu'on apprend à 3 ou 4 jours de la fin du mercato que l'OM essaye de vendre Jonathan Klos.
Alors, j'ai pas compris.
La manière de faire. Alors, déjà, il y a le fond. C'est-à-dire qu'en disant que, en gros, contre Monaco, il est sorti. On n'est pas sûr de sa blessure, il n'a pas serré les dents, donc c'est pas bien vu, et qu'il aurait déjà la tête à l'euro. Donc vous vendez un joueur qui a peut-être la plus grosse valeur marchande à l'OM en disant aux acheteurs potentiels « Non mais alors là, laissez tomber les gars, il va pas avoir la tête à votre club, il va avoir la tête à l'euro. » Vous êtes acheteur, dit « Ok, je veux bien l'acheter, mais je ne vais pas le payer au prix proposé ou ce que vous en voulez. » Et finalement, tout ça pour le laisser jouer. Donc ils ont pris aussi le risque potentiel de le flinguer. Parce que là, ils se disent, ils n'ont plus confiance en moi. Et là où c'est dur, c'est que dans les Marseillais qui faisaient un bon début de saison, il était là. Donc je trouve qu'il y a une forme d'ingratitude sur le fond et sur la forme. Je trouve que c'est complètement raté. Et je pense, honnêtement, et dernière chose là-dessus, à un moment, je me suis dit, l'OM est en train de vendre tous ses bijoux de famille. Ça faisait un peu vente de joueurs avant de revendre le club. Alors je ne vais pas lancer ce fantasme-là parce que c'est un serpent de mer qui existe tout le temps. Mais en fait, on n'arrive pas bien à savoir où va l'OM et ce que veut l'OM et Longoria.
Mais surtout, c'est sportivement. C'est-à-dire, Klos, c'est le bon exemple. C'est que tu vends Klos, tu t'affaiblis sportivement. Tu le vends pas, tu t'affaiblis sportivement. Parce que là, mets-toi à la place de Klos. Donc, tu as fait le job quand même.
Oui,
t'es
quand même.
Peut-être le meilleur Marseillais, ou en tout cas le plus régulier depuis 1 an et demi, 2 ans. Franchement, t'es très très bon. Et là, parce que, a priori, oui, sur une raison un peu fallacieuse. Et mettez-vous à la place de Gattuso, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un joueur qui tournait pas trop mal, même si ces derniers temps, c'était un tout petit peu moins bien. Mais là, comment tu le remets en route, Jonathan Klos, sachant que Tessier, Benassia et Longoria ont tout fait pour le dégager avec un coup de pied aux fesses. C'est compliqué quand même pour Klos sur ces 6 derniers mois. Donc, encore une fois, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça impacte le sportif. Et à quel moment Longoria regarde le sportif quand vous voyez la colonne des arrivées et des départs? Moi-même, Vitinha, je comprends pas. Honnêtement, Vitinha, je comprends. Ok, avec Maxime, on n'est pas forcément d'accord parce qu'effectivement, oui, il est maladroit. Oui, c'est un mec qui, effectivement, a raté beaucoup de choses. Oui, c'est un petit peu mis le vélodrome contre lui.
Ouais, et ça pourrait être pire.
Et ça pourrait être pire. Ouais. Mais enfin, bon, Vitinha, c'est quand même un jeune qui. Il est là depuis un an. Un an. Ça fait pas deux, ça fait pas trois. Il est là depuis un an. C'est un jeune qui avait jamais quitté le Portugal. Il reste jeune. Moi, je pense qu'il fallait continuer à lui donner la chance. De toute façon, dans quelle mesure, quand tu es Vitinha, tu peux engranger de la confiance? C'est-à-dire que tu vois débarquer cet été des mecs en attaque, mais de partout. Tu vois que ça part, que tu étais dans un effectif hyper mouvant. Comment tu peux déjà créer des automatismes, avoir de la confiance parce que tu n'as jamais été installé en tant que titulaire? Donc, c'est hyper compliqué. Et puis là, on te dégage. Le Génois ne lèvera jamais l'option d'achat. Je crois qu'elle est à 24, 23 millions.
À part si
il marque 30 buts. Voilà. Voilà. Mais bon. Voilà. Donc, tu vas revenir à Marseille. Dans quel état?
C'est de l'argent foutu en l'air.
C'est de l'argent foutu en l'air, sachant que c'est ton plus gros investissement de l'histoire. Vitinha, il fallait construire autour de lui. Pourquoi vous ne construisez pas? Pourquoi Marseille ne construit pas autour de lui? Moi, je peux croire en Vitinha. En tout cas, j'ai rien qui me fait dire que c'est une pipe complète. Marseille s'est trompé absolument, puisque de toute façon, on ne lui a pas donné la chance qu'on doit donner à un joueur comme ça. Donc, moi, là, ça me pose un vrai problème. Quand tu regardes l'effectif de l'OM, il n'y a personne qui est là depuis plus de 3 ans, si ce n'est Rongier, ouais, me semble-t-il. Ouais. Donc, de toute façon, comment tu veux construire, ouais, mais... comment le sportif veut bâtir.
Le sentiment d'attachement à l'équipe aussi. On en parlera d'ailleurs avec Lyon après. C'est pareil. Ouais. Comment tu t'attaches à une équipe avec des joueurs qui sont là une fois.
Tu parlais de Guendouzi. Guendouzi, Payet, Mandanda, pour moi, c'était les trois figures de l'OM.
Ah oui.
Ok. Elles ont toutes été virées sans ménagement. Aujourd'hui, quelles sont les figures de l'OM?
T'as Rongier et Gigot.
Et mais pour et moi, Rongier, tu peux avoir Vitinha d'une certaine façon aussi. Ouais. Parce que c'est un mec qui se donne, un mec qui. Voilà, un mec qui pour. Il faut se rappeler Mamadou Niang, sa première saison à l'OM, il fait crater. C'est catastrophique. Il faut se rappeler, je sais que la comparaison va te hérisser le poil.
Ah non,
mais
bah non,
Didier Deschamps en première année, on l'appelle j'en peux plus.
Non, pas Didier Deschamps, Jean-Pierre Papin.
Jean-Pierre Papin, pardon.
Non, mais justement, il ne reste pas le poil. Moi, j'ai souvent dit ici qu'il me faisait penser à Papin. Voilà. Première saison. Sauf que je pense qu'il y a plus de lacunes que Papin et qu'il n'arrivera jamais au niveau de Papin.
Voilà, mais toujours est-il que la première saison de Papin à l'OM, c'est catastrophique, il devient le plus grand joueur de l'histoire du club.
Ouais.
Ce que je veux dire, c'est comment tu peux juger sur un an un mec que tu as chopé l'hiver dernier, un Portugais qui était jamais. Voilà, un moment.
En fait, tu peux. Alors, moi, je donne toujours un an, donc je peux me dire à un moment, bon, ça va, ça fait manquer là. Mais le vrai problème, c'est de l'avoir acheté à ce prix-là, d'avoir dépensé autant. En fait, à un moment. On peut pas tout mettre
mais
sur
si
le dos
du joueur. Mais si tu décides que c'est un investissement, limite, mais fais tout
mais
pour
qui a décidé de l'acheter et qui a vu dans ce joueur un type qui valait 32 millions. C'est peut-être là l'erreur. Parce que s'il arrive pour 10 millions l'année dernière ou 15 millions, c'est pas la même histoire. Oui. On dit que c'est un gros investissement. C'est des joueurs à 15 millions, l'OM, il y en a.
Ouais.
L'Audi, il est à 13 millions. On peut dire, bon, bah lui, il était cher pour ce que c'est. Voilà. Et le problème, il est là. Et pour en revenir à Longoria, c'est un moment, il faut rendre des comptes. Qu'est-ce que pense Franck McCourt de la masse salariale de l'OM aujourd'hui? Qu'est-ce que pense Franck McCourt des dépenses de l'OM aujourd'hui? Enfin, à un moment, j'imagine que ça doit le titiller quand même de se dire, bon, on va où? Parce que moi, j'ai du mal, on ne peut pas tirer de plan sur la comète, mais j'ai quand même du mal à voir l'OM sur le podium. Il n'est jamais très loin, mais à quel moment on va se dire, oui, l'OM peut revenir dans, je dis bien les trois premiers, ce quatrième, ce sera encore le spectre. Du
barrage.
Du barrage. Et puis, si l'OM arrive au barrage, qu'est-ce qui va se passer encore?
Comme l'année dernière.
Et ça va être la même chose. Ouais. Est-ce que l'entraîneur sera encore là? Est-ce qu'encore un entraîneur va
partir? Il y aura 10 nouveaux joueurs qui seront arrivés.
Il y aura 10 nouveaux joueurs.
Juste une statistique intéressante, Maxime. Depuis le début de l'été, Marseille a fait plus de transferts ou de mouvements, comme tu dis, que marqué de points au classement.
Ouais.
Est-ce que ça dit plus que l'OM fait un début de saison pourri? Ou que c'est à cause des transferts? À mon avis, ces deux trucs se nourrissent. C'est-à-dire que tu as 32 transferts pour 29 points. Il y a un truc qui ne va pas. Je pense que. J'en suis à penser que Longoria est trop déconnecté du sportif,
regardez,
de ce qui se passe sur le terrain et de ce dont tu as besoin d'entraîneur.
Regardez le banc de touche de l'OM contre Monaco la semaine dernière.
Après, il y a un petit peu de canne quand même. Mais oui,
mais tu ne dois pas en arriver là. Et plus, on pourrait déborder sur la formation marseillaise.
Ouais.
À quel moment l'OM va avoir des joueurs? Là, il y avait Sparagna qui est revenu.
L'histoire est incroyable. Oui.
À quel moment l'OM va avoir une formation derrière qui va pousser? Et en fait, là, ils ont acheté. En plus, dans le mercato, ce qui est un peu illisible, c'est qu'ils ont acheté Onana pour tout de suite. Mumbagna pour quand? Je ne sais pas. À quel moment, enfin, c'est bizarre. Sarr, il devait partir, essayer de le faire partir, finalement il reste. Enfin, on a l'impression que le plaisir est plus dans le mouvement que la finalité. Il faut faire du mouvement, tout simplement.
Il faut faire plus du mouvement que de marquer des points. Il y a un truc qui m'échappe. On est bon sur l'OM, Maxime Parce que tous les jours sur WhatsApp, Maxime m'envoie, il faut qu'on parle de Longoria. Il faut qu'on parle de Longoria. On a parlé de Longoria.
Longoria, ça a été très bien au début, et tout le monde est parti. Il a dit oui, il a des idées, tout ça. Mais à un moment.
Mais alors la question.
Quoi? La réponse.
Est-ce que l'OM doit se séparer de Longoria?
Moi, j'y pense depuis le début, depuis déjà cet été. Moi, j'ai jamais été. Encore une fois, quand on a mis sur le dos des entraîneurs le fait qu'ils quittent le club. C'est pas normal que des entraîneurs quittent chaque année l'Olympique de Marseille alors qu'ils sont en situation de réussite. Voilà, ça n'existe pas, ça n'existait pas. Que la deuxième saison soit difficile parce que c'est l'OM, c'est une chose, ok. Mais le problème, il faut se poser la question du pourquoi, du comment ils sont partis. Sampaoli a parlé d'ailleurs dans l'équipe il y a une semaine, je crois. On sent qu'à un moment, il faut plus d'ambition parce qu'ils savent que la deuxième saison va être plus dure. Mais si en plus, vous changez à chaque fois 60% de l'équipe type, bah vous n'y arrivez pas. Regardez l'exemple avec Tudor Marcelino. On a changé les joueurs de Tudor pour les joueurs de Marcelino qui est parti après 5 journées. Et Gattuso se retrouve avec une équipe qui ne correspond pas à ce dont il avait besoin. Et tout ça pour revenir à une défense à 3 comme sous Tudor. Enfin, en gros, le problème, c'est qu'il y a à long terme, la ligne directrice n'existe pas. Et ça, la ligne directrice, c'est un président de la donnée.
On est bien d'accord. Bravo Maxime. C'est bon, là, il a tout donné. Il va falloir tenir jusqu'à la fin, mais là, on sentait que ça lui tenait à cœur. Il n'était pas là la semaine dernière, je le rappelle, Maxime. Il a engrangé, comme les enfants. Ils ont engrangé à un moment. Il fallait que ça explose, ça a explosé. Allez, on va parler de l'Olympique Lyonnais maintenant avec un mercato qui ressemble à une poudrière ou à une bombe à retardement. Pourquoi ? 6 nouveaux joueurs à l'Olympique Lyonnais, un club qui est en situation délicate, puisqu'il est en situation de barragiste, là, si je ne dis pas de bêtises, hein, Lyon est 16e. Et Lyon n'est pas loin d'être le club le moins accueillant pour les recrues. On sait que le vestiaire est très compliqué à intégrer du côté de Lyon, avec des Lyonnais pur jus qui font assez peu de place finalement aux recrues. Hier, jeudi, on a eu Frédéric Guéra, qui est un agent historique de l'Olympique Lyonnais, de Grenier, d'Oumtiti, il a été de Ben Arfa aussi, qui nous disait un mercato d'hiver, ça doit être un mercato de retouche. Là, on change tout alors qu'il n'y a qu'un match par semaine, c'est ridicule. Ça va être chacun pour soi. Matic, c'est bien, mais il fallait que ça s'arrête là. Est-ce que Lyon a trop recruté, Maxime ? Est-ce que Lyon s'avance dans une situation qui pourrait être difficile ?
Alors déjà, la question qu'on aurait se posée de base, si on était dans un milieu footballistique normal, et là je ne parle pas que pour l'Olympique Lyonnais, c'est est-ce que avec ce recrutement, l'OL va se sauver ? Parce que l'enjeu, il est là. J'en sais rien.
Voilà. Ah, merci Maxime.
Non, mais je suis incapable. Gift Orban, Aurel Mangala, Adrielson, Lucas Perry, etc. Est-ce que c'est des joueurs pour sauver l'OL ? Honnêtement, je n'en sais absolument rien. Impossible de le dire. Et bien malin, celui qui les a vus jouer, qui sait que ces joueurs-là vont déjà, en plus, tu le diras, tu en parleras tout à l'heure, vont s'intégrer dans le vestiaire.
Bah oui.
Matic, en effet, je pense que ça ressemble à une bonne idée. Et que voilà, il y a un type qui a un peu de... Comment dire ? Qui n'est pas lyonnais, qui a de la bouteille et qui peut un peu resserrer les liens, voilà, ne serait-ce que par son vécu, par son âge, etc. Mais pour le reste, j'en sais rien. Imaginez la situation de Pierre Sage qui entraîne une équipe dont il ne connaît pas finalement. Alors, j'imagine qu'il a fait le travail, qu'il a regardé, qu'il ne connaît pas tous les joueurs qu'il a récupérés. On lui refile des joueurs. Je serais étonné que Pierre Sage ait beaucoup à dire sur le mercato, parce qu'on rappellera aussi qu'il y a des achats là-dedans qui ressemblent à du trading, c'est-à-dire que voilà, quel est le plan de l'OL ? C'est-à-dire, est-ce que c'est de se sauver ? Est-ce que c'est d'être performant sportivement ? Ou est-ce que faire de l'argent avec des joueurs ? Alors normalement, tout est un peu lié, parce que plus vous êtes performant, plus vos joueurs notamment sont censés être performants et gagnent de la valeur. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire. Et bien malin, celui qui peut imaginer, alors peut-être pas cette semaine contre Marseille, peut-être un peu tôt, quoique, l'équipe qui va démarrer, qu'on fait de Cacré ? Qu'est-ce qu'on fait de Cherki ? Enfin, Cherki, il devrait aller sur le banc, mais ce n'est pas certain. Comme tu dis, il y a tout ce vestiaire lyonnais. Qu'est-ce qu'on fait ? Anthony Lopez. Question va se poser aussi. Mettre Anthony Lopez sur le banc, on l'a vu contre Rennes, ce n'est pas terrible. Est-ce que c'est possible ? C'est compliqué.
Pour moi, c'est ça le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, là, frontalement, qui est attaqué ? Ce sont les Lyonnais. Tu as parlé de Cacré. Matic, il arrive pourquoi ? Pour remplacer Tolisso. Orban, il vient pourquoi ? Pour concurrencer Lacazette. Perry vient pourquoi ? Pour concurrencer Lopez. Ce sont eux qui tiennent le vestiaire. Il y avait Benrahma aussi qui va peut-être finalement arriver, on ne sait pas trop encore, mais pour concurrencer Cherki. Cacré aussi, qui peut être avec Mangala, avec Matic, il y a du monde qui arrive au milieu. Donc les Lyonnais qui tiennent le vestiaire, ils vont être mis en danger. Comment ces hommes-là, qui tiennent le vestiaire, qui tiennent le club, vont-ils accueillir les nouveaux ? Comment ça va se passer ? Ensuite, c'est un vrai problème aussi. Pierre Sage, pourquoi il est là ? Parce qu'il a eu le blanc-seing des Lacazette, des Lopez. ces mecs-là qui ont eu le scalp de
l'entraîneur. On a vu que Lacazette avait un peu de poids quand même sur les entraîneurs précédents.
Bien sûr, évidemment. Qui a eu le scalp de Fabio Grosso. Donc Sage est arrivé. Il s'est mis les Lyonnais dans la poche. Mais aujourd'hui, Sage, est-ce qu'il va mettre en concurrence les hommes qui l'ont installé là ? Comment ça va se passer ? Sage qui n'a aucune expérience de ces situations-là. Lui qui n'a jamais entraîné qui n'a même jamais été numéro 1 d'un club de Ligue 1 ou même d'un grand club, qui était adjoint d'Habib Bey, on rappelle notamment, ou alors qui était à la formation. Mais bon, bref, ça pose des vrais problèmes. À Lyon, il y avait souvent avant, et c'est Frédéric Guéra qui nous disait ça aussi, des facilitateurs, c'est-à-dire des Jallet, des Gonalons ou des Govou même avant, qui mettaient un peu de voilà, d'huile dans les rouages, qui permettait d'accueillir les nouveaux, qui faisait vivre un peu le groupe. Aujourd'hui, Lacazette, Tolisso, Lopez, ce ne sont pas des mecs, ce sont pas des fédérateurs, ils n'ont pas cette qualité-là, ils ont d'autres qualités. Mais... Et donc, on peut avoir potentiellement, en plus, vous rajoutez là-dedans, dans cette marmite-là, bah, le spectre d'une descente en Ligue 2, des matchs au couteau, un Groupama Stadium voilà, qui peut très vite aussi se retourner contre les joueurs. Bref, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font que la situation est un peu explosive. Et pourquoi Lyon est allé là, alors même qu'il y avait quand même un vrai redressement, que Sage avait remis dans le coup les Lacazette, remis dans le coup certains joueurs, il avait retrouvé des résultats, la victoire face à Monaco notamment. Donc il y avait voilà, une vraie progression. Mais non, Textor, il a fait ce qu'il a promis, c'est-à-dire foutre un coup de pied là-dedans, remettre des nouveaux joueurs là-dedans. Il y a près de 40 joueurs sous contrat. Enfin, voilà. Pour moi, il y a une vraie situation délicate à Lyon. On verra le résultat. Hein. Peut-être que Orban, Mangala... Oui, sur le papier, ces mecs-là, ils apportent un vrai plus à l'OL. Je pense à Mangala notamment, qui est international belge, donc c'est pas n'importe quoi. Mais une équipe, c'est pas les meilleures individualités. Une équipe, c'est il faut faire monter une mayonnaise. Et là, bon courage à Pierre Sage pour faire monter la mayonnaise.
Et on parlait de Vitinha tout à l'heure avec l'OM. Là, Mangala, ça va être plus de 30 millions au final.
Oui.
Si c'est levé, l'achat. Mais bon, quand vous payez un prépayant de 11 millions...
Ah oui, c'est pas pour le...
A priori, c'est pas pour 15 matchs. Ouais. Voilà. On pourrait aussi parler de la DNCG qui avait accordé une petite souplesse.
Ouais.
Et là, c'est plus une souplesse, c'est un grand écart. Là, 50 millions de dépenses. Bon, voilà, en fait, la DNCG... Et après, elle va dire, bah oui, mais ça va pas, il n'y a plus d'argent. Il est très anachronique ce mercato parce que en fait on n'était plus habitué. Alors vous allez me dire il y a Longoria, mais il y a des mercato qui étaient vraiment avec le temps devenus des mercato d'ajustement. Là c'est quasiment un mercato de renouvellement et ça m'a fait penser. Je suis allé regarder les mercato du PSG et de l'OM au début des années 2000. Alors j'ai retrouvé le PSG avec un mercato quand même. Je vous dis les noms. En plus vous les connaissez. La différence c'est que vous connaissez les joueurs que je vais vous citer en hiver.
Vampeta, je suis pas sûr qu'on connaissait à l'époque où il arrive.
Ah si, il vient de l'Inter.
Ah,
si, si,
ah, oui,
Vampeta, De Lucas, Didier Domi, Mikel Madar, Mikel Arteta, Pochettino.
Ça, c'est que les arrivées.
Ouais.
Ouais.
C'est pas mal. Alors les départs, Dalmat, El Karkouri, Pesley,
ouais, Giroud, Aboyel.
C'est ça, voilà. Et l'OM, j'ai un Olembe, Dalmat, Lamine Sacco, Cyril Chapuis, Dimas, Torizzi, Alfonso, Rivera et Alfonso, qui venait, je crois, de l'Espagnol Barcelone.
Il n'y a pas que des bons.
Et c'était sous Bernard Tapie, directeur sportif. Voilà. Et en fait, ce que ça dit, c'est que ces mercato à l'époque. Et il y en avait un autre de l'OM au moment où ça avait un peu explosé après la défaite à Saint-Etienne.
99.
Ouais. Ce que ça 5-1. Dit, c'est que ça n'améliore jamais, jamais la situation. C'est ça qui est terrible.
Ouais.
C'est-à-dire que vous avez très peu de temps pour travailler. Alors, il y avait quelques bonnes pioches, notamment au PSG. Mais là, moi, je vois les noms très bien. Moi, peut-être que c'est moi qui ne suis pas assez près le football. En l'occurrence, je suis incapable de vous dire que...
Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas sûr que ce sont des mecs qui te feront progresser dans les 6 mois qui viennent.
C'est ça.
Voilà. Mais après, ce sont aussi, il y a des bons. Enfin, Matic, Mangala, voilà, il y a des références derrière. Mais l'autre risque qu'on peut pointer là, c'est la masse salariale de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que si ça se passe mal, si
l'OL en L2, là.
Ah, mais non, ils iront pas en Ligue 2 avec une masse salariale comme ça. C'est pas possible.
Ah oui, bah voilà.
C'est
bah,
pas possible.
Oui, bah voilà.
C'est pas possible. Ah ouais, s'ils descendent, il y a un énorme risque. Bah, que le club implose complètement. Alors, j'espère que John Textor est au courant de ça, j'espère que tout le monde à Lyon est bien au courant de ça, mais il y a quand même un risque que si ça se passe très mal, si la mayonnaise ne prend pas, si le vestiaire explose, si Pierre Sage n'arrive pas à contrôler les choses, c'est des questions qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui, et ben ça se passe encore plus mal pour Lyon pour la suite.
Non, mais là, Textor se dit qu'au pire, ils seront numéro 1 de la prochaine draft.
Exactement.
D'ailleurs, son interview dans l'équipe, c'était. Alors, on sentait la traduction. Je l'entendais parler en anglais.
Ouais.
C'était vraiment très américain, sa façon d'être amazing, c'est génial, etc. C'est une culture très américaine qui ne ressemble pas. Imaginez la même interview de Jean-Michel Aulas là. Alors, il aurait sûrement accusé tout le monde entier d'être à l'origine des problèmes de l'OL, mais il n'aurait pas mis sous le tapis les problèmes de l'Olympique lyonnais en disant que oui, ça ne va pas bien, mais ceci. Alors que lui, zéro problème, ça positive. Bon courage en tout cas pour la deuxième partie de saison et ça commence dès dimanche contre l'Olympique de Marseille.
Aïe, aïe, aïe. Allez, on termine cette émission avec Kylian Mbappé puisque Marca nous a annoncé cette semaine qu'il allait parler.
Ils annoncent beaucoup de choses, Marca.
Marca annonce beaucoup de choses, oui. Mais qu'il allait parler au mois de février. Alors, on sait que Marca et le Real Madrid, c'est le Real Madrid en sous-main qui communique. Est-ce que c'est pour mettre la pression sur Mbappé? Est-ce que vraiment Kylian Mbappé va parler dans les jours qui viennent de son futur? On rappelle qu'il est en fin de contrat le 30 juin prochain du côté du PSG. bah, que tout le monde l'annonce du côté du Real Madrid. Maxime, est-ce que Mbappé va tout dire en février ?
Alors, un joueur de ce calibre-là qui parlerait à ce moment-là en étant libre à l'été, ce serait quasiment une... ce serait une première. L'exemple le plus proche que j'ai de ça, bah, c'est arrivé hier, mais ce n'est pas en football, c'est en Formule 1, où il y a un très très grand pilote qui a annoncé qu'il rejoignait Ferrari pour la saison d'après. Donc il va faire toute la saison 2024 sous les couleurs de Mercedes, c'est Lewis Hamilton. Sauf que bah, la Formule 1, ce n'est pas le football et ça se passe pas exactement pareil. Il n'y a pas les supporters, il n'y a pas cette pression autour. Et imaginez, encore une fois, je ne peux pas imaginer, pour faire simple, Kylian Mbappé qui annonce le 16 février, deux jours après le match aller du 8e de finale face à la Real Sociedad, je quitte le PSG à la fin de saison.
Ça paraît.
Alors, encore une fois, le seul petit doute qu'on peut avoir, c'est que c'est Kylian Mbappé et qu'il n'a pas envie de faire les choses comme les autres et qu'il assume tout. Mais imaginez quand même, tu parlais de poudrière avec le vestiaire lyonnais, mais imaginez la poudrière que deviendrait la fin de saison du Paris Saint-Germain avec Mbappé qui se barre dans 3 mois. Qu'il le dise à Nasser, que ce soit propre, tout ça, pourquoi pas, ça permet de travailler. Et je n'ose même pas imaginer qu'il annonce « je pars ». Et plus, il déstabiliserait peut-être pas que le PSG, il déstabiliserait peut-être potentiellement aussi le Real Madrid.
Alors, je suis plutôt sur ta ligne, mais j'ai essayé de trouver des arguments qui pourraient me faire dire que Kylian Mbappé parlerait. Déjà, tu l'as dit, s'il y a un joueur qui casse les codes,
ouais,
s'il y a un joueur qui s'en fout à peu près de tout ce qui s'est fait avant, s'il y a un joueur qui a confiance en lui et confiance en sa parole, s'il y a un joueur qui pense que ce qu'il fait est bien et donc il faut le faire, c'est Kylian Mbappé. Donc s'il y en a un qui peut le faire, c'est lui. Ensuite, il y a quand même toute une campagne de communication autour de Kylian Mbappé depuis quelques semaines qui me font dire qu'il y a quand même un truc qui se trame, ou en tout cas qu'il y a une décision qui a été prise. Il y a eu envoyé spécial, il y a eu la zone mixte, après le match face à Toulouse, après le trophée des champions, et il y a eu l'interview à GQ, et j'en oublie peut-être d'ailleurs. Tout ça, qui sert un peu à polisser l'image de Kylian Mbappé, à faire dire, regardez quand même, je suis quand même quelqu'un de sympa, parce que c'est quand même le capitaine de l'équipe de France. Là, quand on parle de Kylian Mbappé, on ne parle pas que de ceux qui supportent le PSG, que de ceux qui suivent la Ligue 1, on parle aussi du grand public, et qu'un capitaine de l'équipe de France, meilleur joueur du meilleur club de France, s'en aille en Espagne, ça peut choquer les gens. Donc, il y a quand même une campagne autour de Kylian Mbappé, autour de sa fondation d'envoyé spécial. Il a préparé le terrain aussi en zone mixte en disant « Attendez, mais si je m'en vais, tout le monde rentre… » Enfin, tout le monde, oui, le PSG…
Ça se fera proprement.
Voilà, ça se fera proprement. Donc tout ça, ça annonce pour moi quelque chose. Et si la campagne est faite au mois de janvier, bah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui va être dit au mois de février. Peut-être. Hein, là, ce ne sont que des supputations. Et puis, effectivement, il y a aussi… Il peut tourner ça en disant qu'il rend service au Paris Saint-Germain parce que voilà, il coupe, il annonce qu'il coupe et donc du coup, le PSG va pouvoir se mettre sur le marché pour recruter Salah, Rashford, Rafael Leao, tous les noms qu'on entend jusque-là. Après, effectivement, annoncer ça, tu prends le risque de foutre un boxon monstre dans la fin de saison du PSG, que le Parc des Princes te fasse ta fête pendant 4 mois, il y a plein de choses. Mais s'il annonce bien, si, puis avec tout ce qui s'est fait jusqu'ici, pour moi, il y a un doute quand même.
Non, mais qu'il y ait un doute, il y a toujours un doute parce qu'il fait à peu près le contraire de ce qu'on imagine. Encore une fois, on peut revenir à mai 2022. On a dû pendant 6 mois dire qu'il partait, il était en fin de contrat et que voilà. Et on apprend la veille qu'il reste. Il peut toujours se passer des choses qu'on ne voit pas venir et c'est ce qui fait un peu la beauté.
Surtout avec lui, je dirais.
Surtout avec lui. Mais en fait, j'essaie de me mettre dans sa tête et de me dire à quel moment j'ai intérêt à dire ça en février.
Surtout que tu peux jouer le Real en Ligue des Champions en quart de finale.
Puis pour le bien de ton club aussi. Enfin, je pense qu'il là, s'il est vraiment réglo avec le PSG.
Oui, mais il peut te retourner l'argument en disant maintenant ils peuvent construire pour le reste.
Non, mais ils peuvent construire, mais.
Alors, plutôt que de partir le 30 juin.
Qu'il le dise à Nasser, ça me paraît évident et c'est bien. Alors après, il faut pas qu'il y ait de fuite.
Ça n'arrivera pas.
C'est compliqué pour commencer à travailler, mais en tout cas, de le dire. Pourquoi le dire aux médias, voilà, par exemple, ou le média, ou aux supporters, etc.
Et là, en plus, on part du principe qu'il s'en va dans tout ce qu'on dit.
Mais voilà, ça se trouve, il va rester. Mais s'il reste.
Parce que s'il reste, autant le dire maintenant, effectivement. Mais
oui, mais il n'a pas envie de le dire maintenant, c'est pas son intérêt. Moi, je pense que le bon timing, c'est il faut attendre la fin de la Ligue des Champions et que le titre soit ou joué ou quasiment joué. Si le PSG est sorti en quart, en demi, il faut attendre jusque-là parce qu'en plus, tu ne pourras pas empêcher de penser les gens qu'il était plus concentré, qu'il est passé à autre chose.
Ce qui sera faux dans son cas quand même.
Ce qui sera possiblement faux, mais tu pourras pas empêcher les gens de le dire. Voilà. Et c'est pas terrible. Et puis, Je trouve que voilà, il y a un temps pour tout. En fait, en vrai, c'est ça surtout. Il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir un temps pour les transferts et un temps pour jouer et pour les distinctions, tout ce qu'on veut.
Après aussi, et là encore, je me fais l'avocat du diable. Mais est-ce que c'est pas mieux de dire maintenant, ok, je m'en vais au Real Madrid, plutôt que d'avoir 4 mois où t'as rumeur sur rumeur, où on pose les questions en conf de presse à Luis Enrique toutes les semaines, à lui s'il passe en zone mixte, à ses coéquipiers, alors qu'est-ce qu'il va faire, etc. Au moins les choses sont claires. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des arguments, même si le plus évident, effectivement, c'est qu'il le dise à la fin, mais il y a quand même des arguments qui font que, voilà, au moins le dossier il est clos, basta, c'est terminé.
Ouais, même pas pour le PSG, je pense. L'argument pour le PSG. Parce que la victime là-dedans, ce serait surtout le Paris Saint-Germain.
Bah, qu'il s'en aille, qu'il le dise aujourd'hui ou au mois de mai.
Oui, mais tu peux pas. Ouais, mais si tu joues des matchs au Parc des Princes dans une ambiance délétère, parce qu'il a dit ça, c'est problématique pour les autres aussi.
L'idéal, au fond, ce serait de le dire dans un moment de communion, dans un moment de victoire, dans un moment de Paris gagne la Ligue des Champions, voilà, Paris gagne la Coupe
derrière,
de France.
Je vais partir. Voilà. Voilà, j'ai réussi mon rêve, etc. Mmh. Ça, c'est très bien.
Mais bon, comme Paris gagnera pas Ligue des Champions cette année, c'est peut-être mieux d'anticiper.
Donc on verra. On va peut-être demander un petit mot à Maxence s'il veut venir.
Évidemment.
S'il veut parler du Paris Saint-Germain, je vais lui poser deux questions.
Vas-y, pose tes questions à Maxence.
Ah, il arrive. Il faut que tu viennes au micro. Alors.
Au milieu. Alors, faut que tu te mettes au milieu. Ou sinon il parle dans ce micro.
Ouais. Peu importe. Mais il faut que tu te rapproches.
Ah oui.
Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé va partir?
Pour moi, je pense ouais. Parce que ça fait quand même pas mal d'années. Ça fait pas mal d'années qu'il est là déjà.
Ouais.
Il nous a quand même bien aidés. Mais
nous, donc t'es supporter du Paris Saint-Germain.
Ouais, exactement. Il nous a quand même bien aidés. Et je me souviens, il y a 2 ans, il y avait eu des tensions parce qu'on savait pas ce qu'il allait faire et tout. On était presque sûr qu'il allait partir. Et si ça a fait encore une autre année, il va crier, tout le club va pas être content. Ouais. Ça va être chaud.
Et tu penses qu'il aurait intérêt à annoncer au mois de février ce qu'il va faire?
Non, je pense pas parce qu'il y aurait des tensions avec le club.
Voilà.
Putain, il est bon, hein.
Je crois qu'il a tout dit.
Il est pas mal.
Oh, il connaît le sujet. Hein.
Oh non, mais il est à l'aise.
Tranquille, voilà. Il y a eu un petit chat dans la gorge au début. Ouais,
c'est l'hiver, mais c'est l'hiver. Normal. On est tous un peu malades.
L'hiver plus stress, exactement.
Alors, moi, ce que je conseille, c'est un petit lavage de nez au sérum physiologique et à la petite seringue.
Avec les enfants, c'est toujours un plaisir, tu vois.
Ah, c'est toujours un plaisir. Ouais. Voilà, et puis tu reviens.
Tu fais plus de lavage de nez à ton âge?
Si, de temps en temps quand même.
Ah ouais. Mais c'est pas tes parents qui les font?
Non.
Ah oui, ok.
Moi j'en fais plus parce que t'as vu la taille du terrain. Il faudrait un camion citerne.
Toi ça coule tout seul. Y'a rien qui reste coincé.
Donc pour le rajeunissement de la Stream Team, on en revient au début. Hein.
Ouais.
Maxime, je pense que là, à un moment, il va falloir se lever. Il va falloir laisser la place. Tout simplement. Mais tout simplement.
Je pourrais en plus.
Mais les plus grands l'ont fait. Voilà. Et voilà. Et encore une fois, Hugo Lloris, il a vu que Mac Maignan, il arrivait derrière. Les gars, voilà, il y a plus fort derrière moi.
Enfin là, je suis pas sûr de voir Mac Maignan encore.
C'est sympa pour Arthur notamment.
Non mais
c'est sympa pour Arthur. C'est qui Arthur? Alors
faut les pousser. Hein,
c'est Paul Bernardoni.
Après je te rappelle qu'Arthur était prévenu le matin qu'il faisait l'émission de la famille.
C'est vrai.
On n'était pas non plus dans une situation.
C'est vrai.
Mais non mais Arthur est très bien comme tous ceux qui passent à ce micro là. Sinon il n'y passerait pas. Ouais. On mettrait pas notre réputation en danger quand même.
Quelle cire-pompe. Bon, on a fini je crois.
On a fini.
On remercie Marco Popovic.
C'est ça.
L'immense Marco Popovic au visuel. On remercie Adrien à la production, réalisation, distribution, c'est le mec qui fait tout, qu'on voit jamais, mais qui fait tout, le plus important. Et on remercie Maxime pour sa dernière. et on se donne rendez-vous. Semaine prochaine, on est tous les deux là. Oui, moi je suis encore là.
Oui.
Voilà. Et après, c'est les vacances, donc vous connaissez Maxime. Ouais. Les States.
Et toi, t'es où, toi?
Le passeport.
Tu passes pas en vacances?
Je suis en Haute-Loire.
Tu sais même pas.
Déjà, entre la Haute-Loire.
Tu sais même pas ce que je vais faire.
Et les States.
Je te confirme.
C'est deux visions de la vie. Moi, je suis le petit gars de la province qui retourne à ses racines. Voilà, j'oublie pas d'où je viens. Maxime, il est dernier.
Moi, j'ai pas de racines.
Voilà.
Je suis un citoyen du monde.
Bah ouais, donc t'es un Floridien maintenant. C'est un Miami Vice, Miami Beach. Et voilà, c'est Maxime Dupuis.
C'est même pas ce que je vais faire.
Voilà. Donc rendez-vous la semaine prochaine.
Pour avoir la réponse de mes vacances.
Pour savoir où Maxime Dupuis part en vacances. C'est de l'autre côté de l'Atlantique, à mon avis. Ciao, ciao.
Salut.
Thank you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.